Bonjour à tous, soyez la bienvenue sur cet épisode supplémentaire du podcast Le Petit Chef Philosophe. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un chef pas comme les autres. Ce chef-là a tout abandonné à l'âge de 55 ans, malgré une carrière extraordinaire. Il s'est exilé. Mais son leadership était si exceptionnel que son enseignement nous est parvenu aujourd'hui, alors que son histoire remonte à plus de 2500 ans. Son leadership reposait sur ses valeurs. Oui, cet homme, bras droit de l'empereur, s'est exilé parce que ce dernier n'agissait pas selon ses valeurs. Nous pouvons d'ores et déjà saluer le courage dont il a fait preuve pour tout abandonner après 50 ans de galère puis 5 ans comme ministre. Mais le plus grand drame de sa vie ne réside même pas dans ses faits. Notre protagoniste d'aujourd'hui se nomme Confucius. Que faut-il savoir de lui dans les grandes lignes ? Tout d'abord, il s'agit d'un philosophe chinois né en moins 550 qui a vécu 72 ans. Cela en fait, si vous voulez vous y retrouver dans la chronologie des philosophes de l'histoire, un quasi-contemporain de Socrate, à la marge. On situe Confucius aux alentours de moins 500 et Socrate 100 ans plus tard, moins 400. C'est important de le mentionner car tous deux pratiquaient la transmission orale. Socrate n'a jamais rien écrit. C'est son disciple, Platon, qui a retranscrit la plupart des enseignements. Pour Confucius, c'est le même principe, un enseignement oral. Mais les traces sont un petit peu moins nettes. Les textes retrouvés sont décousus, mais ses nombreux disciples se sont évertués à retranscrire par écrit ces histoires, appelées les entretiens. Ce sont les seules traces qui nous restent de Confucius. Mais peu importe pour nous aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour développer la philosophie de Confucius, même si nous allons l'aborder. Non, aujourd'hui, nous nous attardons sur ce qui fait de lui un grand leader, et plus que ça même, un grand leader éthique. Durant les 50 premières années de sa vie, avant qu'il soit nommé ministre de la Justice, puis Premier ministre, Confucius enseigne. Très tôt déjà, il est éduqué par sa mère, puis par des professeurs. Et de nature très curieuse, il apprend vite. Mais d'où viennent ces valeurs exactement ? Eh bien, aucune idée. Mais elles s'articulent autour de la bienveillance. Ne pas faire à autrui ce que nous ne désirons pas qu'il nous fasse. Ne pas juger l'autre trop vite ou trop sévèrement. Respecter ses aînés et les traditions. Cultiver la vertu et la parole, de très bonnes valeurs pour un manager. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que Confucius encourageait fortement les organisations pyramidales, alors même qu'il prônait l'empathie, la confiance et la vertu. Très vite, Confucius est entré dans de très bonnes maisons pour dispenser son enseignement, ce qui l'a amené à coacher les plus grands nobles et dirigeants du pays pour leur enseigner à diriger avec sagesse. Si un mot doit qualifier Confucius, c'est bien le mot sagesse. Confucius est connu pour avoir enseigné aux dirigeants à diriger avec sagesse. Alors forcément, ça nous intéresse. L'ordre dans le monde dépend de l'ordre dans la nation. L'ordre dans la nation dépend de l'ordre dans la famille. Et pour assurer ce dernier, nous devons cultiver notre vie personnelle et clarifier notre cœur. À 33 ans, le bénéfice de pouvoir côtoyer le gratin de la haute société lui ouvre quelques portes. On lui autorise à quitter le royaume pour satisfaire son envie de découvrir le monde. Il explore ainsi ce que deviendra la Chine unifiée, à l'époque décousue en 8 royaumes, avec une calèche et 2 chevaux. C'est peu, mais c'est déjà bien. Durant son voyage, Confucius se fascine pour les rites anciens. Car oui, pour nous, Confucius, c'était il y a 2500 ans, mais déjà à l'époque, il nourrissait lui-même une soif pour le savoir des anciens. Il découvre des textes un peu morbides sur des sacrifices. Il écartera ces derniers, mais Confucius en gardera le principal enseignement du rituel et de l'attachement à la tradition. Notre philosophe était donc un leader, innovant par ses valeurs et ses concepts, qui puisait néanmoins sa source et sa légitimité dans les rites anciens. Ami manager, je vous invite alors à ne pas balayer trop durement toutes les procédures et l'histoire de votre entreprise si vous voulez optimiser ses pratiques. En puisant dans l'histoire de l'entreprise, en y faisant référence, vous y gagnerez en légitimité et en leadership, c'est certain. C'est un biais cognitif d'appréciation dont se servent aujourd'hui de nombreux publicitaires. N'avez-vous pas remarqué qu'aujourd'hui, pour vous vendre un produit, la publicité vous parle de tout sauf du produit en question ? Vous aimez le tennis ? Vous êtes cool ? Vous aimez le style ? Toute la publicité s'articule autour de ce que vous appréciez pour vous vendre au final des chaussures de sport. Sont-elles plus résistantes, moins dérapantes ? Aucune idée, mais je les aime déjà. Se référer à ce qu'apprécient vos collaborateurs, à leur histoire commune dans cette entreprise, vous aidera à gagner en légitimité. Vous devez vous référer à quelque chose qu'ils connaissent déjà, qu'ils apprécient déjà, pour qu'ils vous apprécient vous et vos idées innovantes. Là est le secret de la tradition. Celui qui veut tout réformer tout de suite échouera. Tel est le premier enseignement de Confucius. Et si celui-là vous inspire, attendez de voir les autres. À 50 ans, Confucius devient ministre de la justice. Fidèle à ses principes, il organise la société en rites et traditions autour d'un élément central, la vertu. Il donne, en fonction des capacités de chacun, un travail adapté. Cela vous rappelle-t-il vos cours de management de bonne gestion des compétences ? J'imagine que oui. Donnez à chacun le travail qu'il est le mieux à même de réussir. De plus, il dispense de nombreuses paroles autour de la bienveillance et de la vertu. Par exemple, les marchands de poulets qui donnaient beaucoup à boire à leur bête le matin pour tromper le client, afin que la bête paraisse plus grosse, ont cessé d'agir ainsi sous la magistrature de Confucius. Celui-ci n'agissait pas à coup de lois ou de règles, ou de nouvelles procédures dans notre cas. Il organisait la société autour de rituels sociaux et vertueux pour faire évoluer les comportements. Le management par les valeurs est né. Citation : Le peuple sera soumis si vous promouvez des gens droits pour les placer au-dessus des retors. Fin de citation. Tel est le second enseignement de Confucius aujourd'hui. Manager par les valeurs plutôt que de créer une énième procédure. Le maître a dit : Ne pas être connu ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est de ne pas connaître les autres.
Depuis 2 ans, le chef du village a décidé d'éveiller ses concitoyens aux principes confucéens. Chaque matin, il leur diffuse par haut-parleur des passages du Dizigwe, une version simplifiée des entretiens.
Mais Confucius devient trop populaire en offrant au royaume une époque de prospérité. Ses adversaires politiques fomentent un complot avec le royaume voisin. Celui-ci offre, en gage d'amitié, de nombreuses danseuses et chevaux. Le souverain de Confucius en perd tout son latin, ou plutôt, devrais-je dire, tout son mandarin, ou plutôt, devrais-je dire, en perd toute sa vertu. En 3 jours seulement, les rituels et traditions sont mis au placard. Ciao Confucius, c'est la déchéance de Confucius. Découragé, il décide de partir. Quelques disciples l'accompagnent. Confucius tente, durant des années jusqu'à sa mort, de convaincre les rois des 8 petits royaumes de la Chine, qui n'est pas encore unifié, d'organiser la société selon ses préceptes. Il essuie échec sur échec durant 14 ans. Mais cette errance lui permet d'organiser sa philosophie, qui s'étend alors au-delà de la simple administration de la société dédiée aux dirigeants. Elle devient une philosophie de vie. Citation : L'homme de bien attend beaucoup de lui-même. L'homme de peu attend tout des autres. Choisissez un travail que vous aimez. et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Si vous vous cognez la tête contre un pot et que ça sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Fin de citation. Les royaumes se font la guerre à cette époque. Cette vie d'errance est dangereuse. On souhaite sa mort, on le kidnappe, on le séquestre, on l'affame, mais toujours ses disciples lui restent fidèles. Quant à Confucius, il reste loyal envers ses valeurs. Toutes ces épreuves l'amènent à développer sa philosophie, à la renforcer plutôt qu'à la détruire. Il crée alors dans cette adversité le pilier de sa nouvelle philosophie, l'homme de bien. L'homme supérieur est vertueux. L'homme inférieur ne s'intéresse qu'aux privilèges et aux gains.
Junzi se traduit normalement par homme noble ou gentilhomme.
La justice, la moralité, la préoccupation de l'autre, toutes ces valeurs sont des valeurs confucéennes que tout grand dirigeant devrait posséder. Contrairement au management de ce temps-là, si je puis dire, qui gouverne par la force, Confucius est convaincu qu'un souverain a tout à y gagner en faisant en sorte que son peuple se porte bien. Encore un enseignement de Confucius. Le roi doit donc aimer son peuple. Pour autant, l'organisation reste pyramidale. C'est le dilemme de Zeus, le dieu grec, se retrouver tout en haut, tout puissant, en équilibre perpétuel pour ne pas devenir tyrannique. Il s'agit de ne pas confondre pouvoir et puissance, être et les fonctions qu'on exerce. Hélas, Confucius n'a jamais convaincu les souverains. Durant les dernières années de sa vie, il développera le dernier aspect de sa philosophie avec ses disciples, la philosophie de l'empathie. Ne pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'il nous fasse. Tout manager éthique manage suivant ce principe.
Confucius a formulé les vertus du renne et du chou en réaction à l'individualisme de son époque. Mais beaucoup établissent un parallèle évident avec le matérialisme de notre société contemporaine. C'est pour cela que de nombreuses entreprises chinoises essayent désormais d'intégrer les préceptes confucéens dans le monde moderne du travail.
Pour finir cet épisode, je souhaiterais vous parler des 4 domaines à nécessairement maîtriser pour un manager selon Confucius. Le premier, ce sont les mathématiques. Ceux-ci permettent d'affûter l'esprit logique et la confiance dans la résolution des problèmes. Le deuxième, c'est le tir à l'arc. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais le tir à l'arc exige une grande maîtrise de soi. Il ne suffit pas de tirer sur la corde. Il faut tendre le bras avant en même temps que le bras arrière qui tire la corde. Il faut bien positionner ses pieds, respirer 3 secondes maximum une fois la corde bandée. Il faut tourner son coude avant dans un mouvement qui n'est absolument pas naturel pour éviter que la corde, en se relâchant, ne frotte la peau au niveau du coude. Ça fait mal, je peux en témoigner, ça brûle. Le regard, lui, doit s'aligner entre la flèche et la cible et le poignet avant doit être droit, sinon la flèche part en haut ou en bas. Bref, le tir à l'arc est la discipline choisie par Confucius pour apprendre la maîtrise de soi. Pour apprendre la patience et cultiver l'élégance, Confucius favorise la calligraphie. Et enfin, le dernier domaine est celui de la musique, pour apprendre l'émotion dans la rigueur. Qui ne connaît pas Confucius aujourd'hui ? Malgré le fait qu'il soit mort seul et que les premiers écrits de ses enseignements datent de 100 ans après sa mort, Confucius est considéré comme un esprit divin ayant foulé le sol chinois. Et il le mérite largement. La question des valeurs est une question très intéressante pour un petit chef philosophe. Nous avons vu aujourd'hui les bienfaits qu'elles peuvent apporter à une organisation. C'est un style de management très efficace quand on sait s'y prendre. Je conçois toutefois qu'il n'est pas toujours facile d'agir de manière confucéenne, c'est-à-dire de rester fidèle à ses valeurs quand on vous demande sans cesse d'augmenter la productivité des équipes. Pour cela, je souhaiterais, dans le prochain épisode, aborder l'histoire des frères McDonald. Nous allons voir comment ils ont tenu bon, ils sont restés fidèles à leurs valeurs jusqu'au jour où tout a basculé pour eux. Ce jour-là où on leur a pris leur patrimoine, leur concept, leur marque et même leur nom. Vous avez pu entendre des extraits en mandarin dans cet épisode. Ce n'était pas moi, je vous rassure. Il s'agit d'un documentaire Arte très bien fait sur la vie de Confucius et sa philosophie que vous pouvez retrouver en intégralité, en français bien sûr, sur ma chaîne YouTube Le Petit Chef Philosophe. Il dure environ 1h30. Merci à vous, amis auditeurs. N'oubliez pas de partager cet épisode avec vos collègues férus de management et de philosophie. Grâce à vous, le petit chef philosophe pourra raconter encore et encore les aventures des plus grands leaders de l'histoire et d'aujourd'hui.